RFJ Info.
Le journal d'Émilie Momentaler.
Bonsoir. Le Parti socialiste jurassien se profile en vue des élections fédérales de cet automne. Il annonce 3 candidats pour la course au siège à Berne. Le prévôtois Valentin Zuber pourrait lui devenir le colistier de Pierre-Alain Fridé pour le Conseil national. Délaisser ses écrans pour aller à la rencontre des autres, c'est l'objectif de la 8e édition de la Semaine sans télévision qui se tient en ce moment à Delémont. Des activités sont proposées autour des thèmes de la créativité et de la nature. Reportage dans le journal. Verdict final pour Radovan Karadzic. L'ancien leader des Serbes de Bosnie a été condamné à la prison à vie dans un procès en appel. Le tribunal de l'ONU à La Haye l'a reconnu coupable de génocide et crime de guerre 20 ans après les faits. Météo, la nuit sera froide mais dégagée dans l'ensemble. Demain, une belle journée bien ensoleillée est annoncée sur l'ensemble de la région. Les températures seront agréables en plaine comme sur les hauteurs. Le Parti socialiste jurassien avance ses pions en vue des élections fédérales de cet automne. Il annonce aujourd'hui que 3 candidats ont été proposés par les sections au terme du délai fixé au 15 mars. Les précisions de Raphaël Chalverat.
On le sait, la section des Franches-Montagnes a mis sur l'ancienne ministre Elisabeth Baumschneider pour le Conseil des États. La citoyenne des Breuleux devrait être accompagnée par la brentrutaine Mathilde Crevoisier-Crelier, proposée par la section de Porrentruy qu'elle préside. Cette traductrice au département fédéral de l'Intérieur siège au Conseil de ville depuis 2013. Elle a été à la tête du législatif communal en 2017. Comme déjà annoncé, le sortant Pierre-Alain Fridé devrait emmener la liste socialiste pour l'élection au Conseil national. Le PSJ n'a à ce jour pas enregistré de deuxième candidat pour la Chambre du Peuple. Mais la place de colistier pourrait bien revenir à un membre du Parti socialiste autonome, en l'occurrence à son président et conseiller municipal de Moutier, Valentin Zuber. Rappelons que le PSA fait partie du PSJ et que les frontières cantonales n'ont pas d'importance pour le Conseil national. Valentin Zuber.
Ce qui est certain, c'est que le PSA aurait toutes ses raisons de pouvoir participer à cette campagne. Il est une section du Parti socialiste jurassien. Et puis, c'est une législature qui verra Moutier devenir une ville jurassienne. À cet égard, cela ne choquerait personne qu'il y ait un candidat prévôtois, candidat pour un poste aux chambres fédérales, pour permettre peut-être d'accélérer la manœuvre et pour permettre un bon débat pour que Moutier rejoigne le canton du Jura le plus vite possible.
Profiler Moutier, c'est l'objectif prioritaire, pas forcément celui de battre Pierre-Alain Fridé.
Ah non, en tout cas pas. Je crois que s'il devait y avoir une candidature du PSA, elle serait là pour accompagner le sortant, Pierre-Alain Fridé, permettre au PSJ d'assurer ce poste au Conseil national et puis d'intégrer la discussion sur Moutier dans le débat du canton du Jura pour ses élections fédérales. Mais je crois qu'il n'y a en tout cas pas de volonté de faire une quelconque concurrence à un sortant.
La désignation officielle des candidats socialistes se fera le 10 mai lors du congrès électoral du PSJ à Kourou.
Des promenades à cheval pour attirer les touristes aux Franches-Montagnes. Un nouveau projet baptisé « Tous en selle au pays du cheval » a été présenté aujourd'hui par Jura Tourisme. L'idée est d'offrir une balade à cheval à chaque personne qui passerait au moins 2 nuits dans un hébergement jurassien. L'offre sera disponible dès l'été et s'adresse à tous. Le projet vise à renforcer l'attractivité de la région et à favoriser le tourisme équestre. Construire des robots à partir de Lego, c'est le but du concours qui se tiendra samedi à Delémont. Au total, 10 équipes, dont 5 jurassiennes, participeront à la compétition pour gagner la Coupe RoboJU. Pour se préparer, des jeunes jurassiennes et jurassiens entre 12 et 16 ans se retrouvent depuis 6 mois pour créer leur machine. Elles doivent être capables d'arpenter un parcours semé d'obstacles. Une activité qui allie connaissances techniques, mathématiques et en programmation, mais pas seulement, selon Thierry Barthes, fondateur du club RoboJU et organisateur de la Coupe.
C'est de travailler en équipe. Lorsqu'on reçoit le thème principal et puis qu'on doit décider qu'est-ce qu'il est possible de faire, alors il y a toute une réflexion à faire. Quoi, comment, quand, combien, dans quel ordre? Ce n'est pas le coach qui va dire ça c'est juste, ça c'est faux. Non, c'est les jeunes qui doivent travailler en équipe et qui doivent identifier les choses à améliorer et puis les choses qu'ils doivent construire.
Le concours repose sur des robots avec des Legos. Au final, c'est un jeu.
On pourrait le croire. C'est des Legos, c'est construit sur une base de Legos. Mais quand on commence de programmer et de regarder un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est plus forcément du jouet. On doit quand même aller beaucoup plus loin que le simple jeu, mais vraiment développer une programmation parfois très complexe et puis construire des robots aussi qui sont relativement compliqués.
Des propos recueillis par Valérie Manasterski. Argent de poche des enfants, casse-tête ou opportunité? C'est le thème de la table ronde organisée à 20h au Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont. Le débat sera porté par Caritas Jura, Action éducative en milieu ouvert et la Fédération romande des consommateurs. Du côté du musée de l'Hôtel Dieu à Porrentruy, c'est une conférence dédicace de la photographe Carole Alcabès qui est proposée, intitulée « Martyrs, les reliques oubliées ». Elle s'inscrit dans le cadre de l'exposition sur les Ursulines à Porrentruy. Des crayons plutôt que des écrans. Depuis dimanche, c'est la semaine sans télévision à Delémont. Pousser petits et grands à sortir de chez eux, se rencontrer et partager, tel est le but de la manifestation. La municipalité propose durant 8 jours des activités gratuites. Cet après-midi, Lorraine Mezzo s'est essayée au dessin créatif à l'espace culturel La Cantine en compagnie d'une quinzaine de participants. Reportage.
Je vous donne déjà une première feuille. Sur cette première feuille, on vous demande de la remplir avec des traits. Ça peut être des traits courts, ça peut être des traits longs, ça peut être des traits penchés.
Je m'appelle Béatrice Lovy. Mon rôle, c'est d'animer l'atelier de dessin créatif. On a réfléchi aux activités qu'on proposerait. Et puis, on a proposé des activités où on a essayé qu'elles soient réalisables autant par des adultes que par des enfants.
Pourquoi c'est important, finalement, de s'adresser aussi aux adultes?
Parce que dans le monde où on vit, les adultes, ils n'ont plus le temps de s'adonner à la créativité, de dessiner. C'est vraiment chouette que les adultes prennent du temps pour ça, quoi. Rien de mieux pour une mère ou un père de venir avec son enfant faire ça.
Je m'appelle Annick Vungli, j'habite à Delémont et je suis venue avec mon fils Hugo participer à cet atelier créatif. Je trouve que c'est une bonne alternative aux activités qu'on propose souvent aux enfants. Des activités déjà toutes conçues avec des objectifs marketing, par exemple, avec des personnages qui sont importés d'autres cultures. Et puis pour moi, c'était important qu'ils puissent ressortir ce qu'ils ressentent par rapport à sa propre créativité, à son propre univers.
Vous avez utilisé vos écrans cette semaine ?
Oui, il faut être honnête. Oui.
Quelle différence tu vois quand tu es moins sur ton écran ?
Je vois déjà beaucoup plus de personnes parce que le mercredi après-midi, j'ai pas beaucoup de projets. C'est vraiment, c'est très intéressant ces activités.
Et puis vous avez dessiné quoi alors ?
Moi j'ai dessiné un soleil avec une fleur et j'ai dessiné aussi une maison.
La semaine sans télévision continue jusqu'à dimanche à Delémont, au programme notamment des contes pour les enfants, vendredi à la maison de l'enfance, et la découverte des plantes sauvages comestibles à la cabane de la Chouette, samedi. Un important déploiement de secours est en cours sur les hauteurs de Rosmaison. Un promeneur a fait un malaise cardiaque en forêt et est en train d'être évacué par hélicoptère. La Réga est sur place, de même qu'une ambulance et une douzaine de pompiers. C'est une joggeuse qui a donné l'alerte peu après 17h30. Tout ne se jouera pas seulement dans l'arène durant la fête des vignerons à Vevey. Le programme de Ville en Fête a été dévoilé aujourd'hui. Imaginé comme un festival off, gratuit, il propose des dizaines de concerts, mais aussi des représentations d'artistes de rue ou encore des contes pour enfants. Les nombreux espaces gastronomiques et de restauration ont par ailleurs été présentés. Ces animations se dérouleront dans une zone piétonne délimitée pour l'occasion. Le temps d'une conférence de presse, le spectacle principal a donc été relégué au second rang. Frédéric Hall, directeur exécutif.
Bien sûr que le spectacle de la fête des vignerons, ça c'est l'ADN de ce pourquoi on organise la fête des vignerons. Mais aujourd'hui, on parle de la ville en fête. La ville en fête, la gratuité d'accès à la ville en fête. Et puis une grande nouvelle, les fameux cortèges de la confrérie qui existent depuis le XVIIe siècle. Depuis 1955, c'est la première fois qu'ils seront gratuits. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour les habitants de la région ou d'ailleurs. Donc venez vraiment à Vevey. Que vous ayez un billet ou non, vous serez superbement bien accueillis. Il y aura plein de choses qui vont se passer. Une quarantaine de spectacles par jour et même des spectacles différents. Ce qui permet aux gens de la région de revenir plusieurs soirs.
Des propos recueillis par nos confrères de Radio Chablais. Les festivités démarreront bien avant la première du spectacle, en juillet. Les terrasses de la confrérie, érigées entre le lac et l'arène, ouvriront le 20 mai déjà. L'auteur présumé du double meurtre des Verrières savait exactement ce qu'il faisait, selon le ministère public. L'homme a comparu aujourd'hui devant le tribunal criminel du littoral et du Val de Travers à Boudry. L'homme est notamment accusé d'avoir tué son ex-compagne et son amant présumé en août 2017, laissant derrière lui 2 enfants préadolescents. Alors que le père a clamé ne pas savoir ce qui lui a pris lors de cette soirée d'été meurtrière, le procureur n'a pas cru à cette version et a requis une peine de prison à vie pour assassinat. Compte rendu d'audience avec Yann Esler.
Un être égocentrique, narcissique et qui manque singulièrement d'empathie et de remords. Le ministère public ne croit pas que le prévenu a commis un meurtre passionnel. Selon le procureur, le sang-froid dont il a fait preuve durant son acte et les menaces qu'il a proférées 24 heures avant le drame, « je vous tuerai », aurait-il dit aux deux futures victimes, tente à prouver qu'il s'agit d'un assassinat. Le ministère public a révélé que lors du soir du drame, le prévenu se serait notamment introduit dans le domicile de la victime et caché sous le lit pour commettre son forfait avant de finalement passer à l'acte dans la cuisine. Ce qui tranche avec les explications du quinquagénaire qui plaide un meurtre par accès de folie. D'ailleurs, le soir du drame, le prévenu aurait appuyé deux fois sur la gâchette de son arme en tirant à bout portant dans la tête des deux victimes. Le ministère public avance que son ex-compagne a alors agonisé durant plus de 10 minutes avant qu'il ne l'achève froidement d'une deuxième balle. À la lueur de ces éléments et de l'expertise psychiatrique, le ministère public requiert soit le double assassinat ou l'assassinat et le meurtre passionnel sur son ex-compagne. Dans les deux cas, la peine privative de liberté requise et la prison à vie. Pour la défense, le quinquagénaire agit sous l'emprise de la boisson, avec un taux d'alcoolémie supérieur à 2 pour 1000 et a été victime d'un trou noir. Lors des plaidoiries, la défense a plaidé pour le meurtre passionnel. Le prévenu aurait agi par désespoir et souffrance de voir la femme qu'il aime depuis 20 ans lui échapper. En conclusion, elle souhaite que les juges retiennent une peine privative de liberté de 10 ans pour meurtre passionnel ou 14 ans au maximum si le meurtre simple est retenu.
Le jugement sera prononcé vendredi à 14h. L'ancien leader des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a lui été condamné à la prison à vie. Les juges du tribunal de l'ONU à La Haye ont rendu leur verdict cet après-midi. Ils ont rejeté son appel contre une décision rendue par la justice internationale en 2016. L'ex-président avait initialement été condamné à purger une peine de 40 ans de prison pour génocide et crimes de guerre. Les précisions de Marta Duarte.
L'accusé a écouté impassible la lecture du verdict. La justice a souligné l'étendue et la cruauté systématique des crimes commis il y a plus de 20 ans pendant la guerre de Bosnie. Radovan Karadzic a ainsi été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, dont génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il était jugé pour sa responsabilité dans le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica en 1995, le pire perpétré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les chiffres du mémorial de Potokari, plus de 8000 hommes et garçons musulmans ont été tués par les forces serbes dans cette enclave de la Bosnie. Radovan Karadzic a également été mis en cause dans le déplacement de populations sur des bases ethniques dans plusieurs autres villes du pays. Aujourd'hui âgé de 73 ans, celui qui a été surnommé « le boucher des Balkans » est derrière les barreaux depuis 2009. Après 13 ans de cavale, il avait été arrêté en juillet 2008 à Belgrade.
Cette décision concernant Radovan Karadzic est l'une des dernières de la justice internationale dans le cadre de la dislocation de l'ex-Yougoslavie après la chute du communisme en 1991. Le Royaume-Uni demande officiellement de décaler le Brexit. La première ministre britannique Theresa May annonce aujourd'hui qu'elle avait demandé à l'Union européenne de reporter la sortie de son pays jusqu'au 30 juin. La date prévue est fixée au 29 mars. Theresa May a présenté sa requête devant le Parlement britannique. Elle ne souhaite pas un long report qui entraînerait une participation inacceptable aux élections européennes à la fin mai. Theresa May a également exclu la tenue d'élections générales au Royaume-Uni. La Commission européenne a réagi peu après l'annonce de Theresa May. Elle a indiqué qu'un report du Brexit au 30 juin poserait un grave risque juridique et politique. Belle soirée.
Le ciel ce soir et cette nuit sera comme cette journée dégagée. Le soleil reprendra ses aises. Demain, rares seront les grisailles. Mais le matin, il faudra toutefois s'attendre à quelques gelées. Les températures seront fraîches à l'aube. Elles oscilleront entre moins 2 et 0 degrés. Au meilleur de la journée, il fera 13 degrés à Delémont pour Antruy et Moutier et 11 degrés à Seignelégier. Persistance des conditions ensoleillées jusqu'à dimanche.